Merci beaucoup. Donc, Barbara, c'est le moment pour toi de revenir sur la scène. Nos collègues de la bibliothèque de la Canopée, Sophie Bobet, Elisa Neuville et Ludovic Pellegrini également, et Eleonora Leboeck, qui est là au titre de l'ABF aujourd'hui, et évidemment, Élise, qui va les faire dialoguer. Élise Macha, pardon.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés au troisième et dernier grand temps de notre réflexion qui a déjà été effleuré à plusieurs reprises, qui est celui de la diversité dans les équipes. Nous allons nous demander donc comment diversifier les effectifs, avec quels objectifs et quels effets sur les équipes, sur les organisations et sur la capacité des bibliothèques à attirer et à accueillir des publics eux-mêmes plus divers. Pour mener cette réflexion, on va s'intéresser à trois exemples qui sont ici réunis. D'abord, tout au fond, l'équipe de la bibliothèque de la Canopée, Sophie Bobet, Elisa Neuville et Ludovic Pellegrini, qui viennent en voisin de la médiathèque de la Canopée et qui vont nous montrer comment la présence au sein de leur équipe de bibliothécaires sourds est cruciale pour développer des collections, des services, etc., et inciter un public de personnes sourdes à venir, mais aussi quelles sont les conditions de réussite de l'intégration de collègues sourds au sein des équipes. Vient ensuite Eleonora Leboeck, qui est directrice de bibliothèque, mais c'est en tant que membre de la commission Livre-Exil de l'ABF qu'elle viendra nous présenter justement le programme Livre-Exil qui vise à recruter, former et insérer une personne réfugiée au sein d'équipes de bibliothécaires. Et enfin, Barbara Lison, qui vient nous parler ici en tant que directrice des bibliothèques de Brême, d'un travail qui a été mené à Brême pour permettre aux effectifs de tous les services publics, je crois, mais donc des bibliothèques en particulier, de mieux refléter la population de leur territoire dans sa diversité. Donc, trois exemples très différents que nous allons mener en trois temps. D'abord, une présentation des projets. Une évocation des conditions de réussite et des écueils que vous avez pu rencontrer. Et puis, un bilan et des perspectives pour la suite. Alors, Barbara, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet 360 degrés et les cultures de la nouvelle société municipale ? Quel était l'objectif final et comment vous avez pu le mettre en place?
Oui, merci. Je voudrais bien commencer avec ma bibliothèque. C'est la bibliothèque de Brême, bibliothèque publique, qui est déjà engagée il y a plus de 10 ans avec la question de la diversité. On fait des cours, on faisait des projets. Et le projet dernier, c'est le projet de 360 degrés. C'était un projet qui était financé par une fondation du gouvernement allemand. Et on a travaillé pour 4 ans pour toucher les vues de public, 3P, public, personnel et programmation. Et je voudrais bien vous montrer une œuvre d'art qui est dans la bibliothèque centrale. Ce sont 750 têtes des citoyens à Brême. La diversité est visible dans cette œuvre d'art. Et cette œuvre d'art est dans notre bibliothèque centrale déjà, je crois, 12 ans. Je crois que c'est un symbole pour la diversité et un symbole aussi pour l'engagement de la bibliothèque pour la diversité. Et je crois que même mon équipe, quelquefois, voit cette œuvre art et se sent bien dans l'ambiance d'être avec ces 750 têtes. malheureusement, il y a peut-être 20 personnes qui je connais qui sont déjà mortes. Oui, parce que c'est 12 ans. Alors, la gestion pour la diversité dans la bibliothèque municipale, en général, parce que quand j'ai essayé de gagner ce projet pour 400 000 euros, on m'a demandé pourquoi est-ce que vous voulez faire ce projet, parce que vous êtes déjà en train de faire beaucoup avec la diversité. Et j'ai dit, je voudrais encore améliorer notre gestion et je voudrais bien chercher des nouveaux publics qui ne sont pas dans la bibliothèque. Non, d'abord, la dimension de la diversité avec laquelle nous travaillons. Vous voyez, il y a 8 dimensions et ce sont les dimensions, peut-être les noms sont différents, mais ce sont les dimensions les plus populaires et les plus utilisées. Hein. Et Ça, c'est le projet, encore une fois, 360 degrés. Ça veut dire qu'on va arriver au public qui n'est pas dans la bibliothèque, améliorer aussi le programme pour cet public et aussi trouver la cause et peut-être améliorer la cause pourquoi le personnel n'est pas tellement mélangé entre les personnes qui viennent de différentes origines. Et nous avons travaillé dans ce projet pour 4 ans. Qu'est-ce que c'est ? Oui. les éléments de la sensibilité pour la diversité. C'est une cotation du bout de ce projet de l'Allemagne. Éléments de la sensibilité pour la diversité dans la gestion des ressources humaines. Aspect pertinent pour le recrutement de personnel de cultures diverses. Profil de poste et annonce. Processus de candidature, intégration, accord d'objectifs, image de marque, d'employés et culture entreprise. C'est une base, ce sont des questions, c'était très important quand vous pensez à recevoir d'autres personnels que le personnel qui d'habitude. Et il faut changer quelque chose et ce sont des aspects qu'il faut changer. Oui, ça c'est la bibliothèque. Je voudrais bien montrer que nous avons des gens très jeunes qui travaillent maintenant dans la bibliothèque. Ils ont fait ils sont traînés dans la bibliothèque une formation de assistant. Bibliothèque assistant, et ils sont les quatre gens là en gauche, ce sont 300 des réfugiés des pays différents, et aussi il y a une personne qui est une transsexe personne qui a appliqué comme femme, et quand cette personne est arrivée, il était un homme. Et c'est aussi dans la bibliothèque, beaucoup de gens le savent, et c'est normal maintenant, c'est vraiment normal. Et je voudrais bien vous montrer les 149. C'était une affiche, une grande affiche, non seulement pour la bibliothèque, mais pour les autres entreprises à Brême. Ça veut dire chez nous travaillent 149 personnes de 7 pays différents et ils parlent 24 pays et ils parlent 7 langues. C'était un projet et je crois que c'est aussi très intéressant. Maintenant, les références transculturelles, que faisons-nous pour les références transculturelles? Nous avons des différents projets qui aussi sa naissance de ces projets 360 degrés. Lyrik Grenzenlos, numéro 1, c'est Lyrik sans frontières. C'est un projet que les gens, la public peut présenter des poèmes dans leur langue et aussi en allemand. Et ce n'est pas fait par des auteurs ou par des acteurs, mais c'est les gens normaux qui peuvent se présenter. On a des jours, des langues. Ça, c'est dans cette photo, c'est la directrice de la bibliothèque centrale. Elle est d'origine coréenne. Et aussi, on a avancé les communautés différentes. Ça, c'est une photo de Afro-Allemand communauté. Naturellement, offre outreach dans les différents festivals et autres choses. Quand les réfugiés d'Ukraine sont arrivés, on a immédiatement organisé que notre bibliobus va dans les endroits où ils sont reçus. Et naturellement, comme vous avez vu les livres, et naturellement les livres pour les enfants ont les langues différentes. Naturellement c'est comme ça. L'orientation sexuelle, on a fait des formations du personnel sur les faits. Maintenant, naturellement, dans les formulaires, numéro 2, j'ai le russe dans ma tête. Le troisième sexe est dans nos formulaires, naturellement. Nous avons eu des manifestations avec auteurs trans. L'indexage dans nos catalogues a changé et on fait des programmations pour stopper les stéréotypes sexuels.
Peut-être qu'on va revenir sur ces points dans les deuxième et troisième parties de la table ronde sur les difficultés et les conditions de réussite et puis sur le bilan, les réussites que ça apporte. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'intégration de bibliothécaires réfugiés. Donc je me tourne vers Eleonora et sur le programme Livre Exil dont vous pourriez nous expliquer la genèse.
Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, Livre Exil est né. Alors, ce n'est pas une coïncidence. C'est né en partie du fait qu'on ait rencontré les bibliothécaires de Brême, la légothèque de la BF, la commission légothèque de la BF qui s'occupe des stéréotypes en bibliothèque, a mis en valeur le projet de Brême en 2019, si je me rappelle bien, au congrès de la BF. Et c'est en discutant. Alors c'est issu de premières réflexions qu'on avait nous en France, hein, mais c'est aussi issu de ces échanges là sur les conditions un peu pratiques quand on a voulu s'occuper de diversifier de ce côté-là, hein, le multiculturel, le multilinguistique, les équipes de bibliothèque, on a regardé un peu le projet de... Pour parler de Livre Exil en particulier, vous connaissez l'Association des bibliothécaires de France, on est une des entités de cette association-là, on est né en 2019 et on est un petit groupe de bibliothécaires un petit peu... Partout en France. Donc il est né en 2019, ce programme, et on l'a constitué au fur et à mesure. Les collègues qui avaient une... Merci beaucoup. Non, c'est pas bon. Oui, Renaud arrive. C'était pour le PowerPoint. Donc Livre Exil, je vais l'introduire sans le PowerPoint, C'est pas très grave pour le. Vous l'aurez sans doute à la fin, on pourra vous le diffuser. Donc l'idée, c'était d'identifier que les personnes issues de l'immigration et venant d'une immigration plus ou moins lointaine dans leur parcours pouvaient être une richesse pour les bibliothèques. En partant du constat que. On a un multilinguisme, on a des repères culturels différents quand on vient de ce parcours-là. Ça pouvait être intéressant de le représenter dans nos équipes. Quand on a dit ça et qu'on est dans un contexte français, on n'a pas dit grand-chose parce que essayer de faire ça de manière pratique, ça devient un petit peu plus difficile quand on rentre dans les détails.
Donc ça, on y reviendra peut-être dans la partie écueil.
C'est ça. Peut-être une présentation très rapide et puis après je m'arrête là. Pour vous expliquer un petit peu le cœur du programme, on essaye d'accompagner en fait une personne réfugiée identifiée par différents aspects qui sont un petit peu à la carte. Ça dépend de la personne et de ses besoins. Là, je vous parle du cœur du programme. On commence par une immersion dans les bibliothèques françaises. Ça veut dire essayer d'aller voir une bibliothèque universitaire, une bibliothèque de lecture publique, parfois une bibliothèque patrimoniale si on y arrive, en tout cas avoir un panorama divers. Pourquoi ? Parce que les bibliothèques en France, elles sont assez particulières par rapport à d'autres pays. Et que notamment les bibliothèques publiques ne sont pas connues dans tous les pays. Et donc les pays d'origine des personnes qu'on rencontre n'ont pas forcément des bibliothèques publiques de quartier où il y a un public familial, où les enfants peuvent venir. C'est pas une majorité des réseaux de bibliothèques que les personnes ont rencontrés. Et donc il faut les confronter, entre guillemets, à notre manière de faire bibliothèque en France. Le cœur, j'ai envie de dire vraiment du cœur du programme, c'est le mentorat professionnel. On a une personne qui va suivre la personne parfois pendant 2 ans et qui va devenir son référent bibliothécaire le plus proche possible géographiquement et qui va pouvoir suivre son parcours. On a des partenariats pour des cours de français et on s'est aussi interrogé beaucoup sur l'informatique, les compétences en informatique. J'en parlerai peut-être plus précisément ensuite. L'ABF a une formation certifiante d'auxiliaire de bibliothèque sur les années scolaires de septembre à juin et on propose via une bourse de donner accès à cette formation certifiante qui permet d'avoir un diplôme. Ça exige aussi un stage en bibliothèque et donc toute l'année. Donc ça c'est la formule classique de la formation mais qu'on essaye de renforcer quand c'est une personne qui est dans le programme Livre Exil. Et donc on l'accompagne via un tuteur de stage plus son mentor dans l'apprentissage et la pratique de bibliothécaire. Voilà, ça c'était un petit aperçu de cette formation certifiante, mais je vais peut-être plutôt aller sur cet aspect-là très rapidement. On a un avant et un après. L'avant, il permet d'identifier le projet professionnel des personnes, de vérifier que la préparation de la langue, des compétences en langue, et notamment en français, sont acquises. On s'est rendu compte qu'il fallait un certain niveau pour pouvoir faire une formation, il fallait un certain niveau pour pouvoir entrer dans le métier de bibliothécaire. Et il faut un certain vocabulaire professionnel. Donc on essaye de compléter les cours qui sont déjà parfois à visée d'insertion professionnelle pour les réfugiés, avec un vocabulaire qui est bibliothéconomique et dont on détient un petit peu les clés. Vous le savez, on a un jargon. Donc l'idée, c'était un petit peu de compléter des cours en français que ces personnes pourraient avoir. Et puis on analyse un petit peu ce qu'elles pourraient avoir comme compétences avec lesquelles elles arrivent. Ça, c'est le avant. Parfois, elles passent par le programme à la carte, comme je disais, et ensuite, on les suit pendant leur parcours, jusqu'à l'emploi et même après l'emploi. Ça veut dire des exercices de prise de parole pour pouvoir se sentir légitime à parler français, d'écriture de CV. Et puis alors là, on arrive sur des choses qu'on connaît pour d'autres publics, le job training, la recherche d'emploi, rechercher sur les bons sites, s'orienter. On pourra prendre les détails ensuite.
Merci beaucoup. Je me tourne vers la canopée qui a aussi une présentation.
Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, donc on a choisi qu'une seule photo avec mes collègues parce que la médiathèque de la Canopée, c'est pas très loin de la BPI. Et donc si jamais ça vous intéresse, vous êtes invité à venir visiter la médiathèque et rencontrer nos collègues bibliothécaires et également nos collègues sourds. Alors l'inclusion, c'est effectivement inscrit dans notre projet d'établissement. Alors la médiathèque a 6 ans d'existence maintenant. Et dès le départ, il a été décidé d'en faire le 5e pôle sourd du réseau des bibliothèques de la ville de Paris, qui comprend à peu près plus de 68 bibliothèques. Et pourquoi ? Parce que, pour une question de territoire, le Forum des Halles a été longtemps un lieu fréquenté par la communauté sourde. Et si on voulait toucher le public de proximité, comme c'est souvent le cas pour les bibliothèques dites de quartier, de lecture publique, il fallait absolument considérer ce public en amont du projet d'établissement. Donc moi, je vous ai parlé d'inclusion. Et effectivement, nous ne visons pas l'intégration de nos collègues sourds, mais l'inclusion comme des collègues bibliothécaires. Et donc, un pôle sourd, c'est d'abord le fait de pouvoir travailler avec des collègues sourds, qui sont aussi bibliothécaires, et puis c'est avoir des collections adaptées, et de participer aussi à l'enrichissement des collections, puisque mes collègues sourds, sur l'ensemble du réseau, font des adaptations d'albums qui sont ensuite versés sur la plateforme Platon de la BNF, et disponibles pour l'ensemble des lecteurs, mais aussi des bibliothécaires. Et puis, c'est également donc des nouveaux services, puisque c'est l'accueil bilingue de ces publics sourds. Et donc, c'est une charge de travail énorme qui repose notamment pour l'instant sur les épaules de Ludovic, qui est notre chargé des publics sourds et qui est pilote d'un groupe projet transversal à la médiathèque, consacré à ces questions. Donc ça demande d'abord un très haut niveau en langue des signes française. D'autre part, puisque c'est un niveau linguistique qui est requis, d'autre part une grande créativité donc, pour imaginer un mode d'accueil spécifique, imaginer de nouveaux services, faire aussi des acquisitions de collections. Et je rappelle, il est pourtant catégorisé. Donc, à un moment donné, les catégories, ça ne veut plus rien dire par rapport à un niveau de compétence supérieur. Et puis, ça exige aussi une très grande technicité, puisque Ludovic, il va communiquer avec nous autrement, alors par la langue des signes française, mais il va aussi beaucoup utiliser le numérique pour pouvoir viser ses publics par une communication ciblée, notamment sur le site Bibliopie. Donc, ses missions, c'est valoriser et promouvoir la culture et la langue des signes françaises. Et donc, c'est aussi envisager des temps de sensibilisation à la culture sourde, notamment pour les nouveaux arrivants. Mais je pense que Elisa, qui est sa responsable, pourra en dire un mot plus particulier après, parce que la question de l'inclusion repose sur un mode de communication partagé. Et donc, chacun d'entre nous avons dans notre fiche de poste, moi y compris, la langue des signes française. Donc, c'est un gros effort en formation et en temps, en investissement. Et idéalement, nous avons une matinée par semaine consacrée à l'acquisition de cette langue. Et comme c'est une langue assez complexe, c'est vrai qu'on apprend plus ou moins vite. Et puis, ça veut dire aussi, pour Ludovic, maîtriser, comme je disais, l'outil vidéo, numérique, le montage. Et effectivement, pour tout ce qui va avoir trait à l'application, à nos services, pour rendre accessible. Nous avons non seulement interprètes en langue des signes française lorsque nous avons des conférences ou des soirées débats, mais au quotidien, nous devons aussi utiliser l'outil numérique. Alors, ce n'est pas écologique, mais à un moment donné, c'est du développement durable puisque nous permettons d'être accessibles au plus grand nombre. Alors, en termes de management, je vous disais les besoins en formation. Nous testons le sous-titrage et parfois nous devons plaider auprès de notre direction des services numériques pour dire ce logiciel ne fait pas partie du catalogue, mais ça nous intéresse de l'avoir parce que ça nous permet d'être accessible et déjà d'être accessible entre nous. Donc voilà, ça nécessite de faire des notes de service, mais c'est pas grave, ça c'est mon job. Et puis travailler dans un pôle sourd, bah, c'est communiquer autrement. C'est d'abord communiquer en équipe, en démultipliant les moyens de communication. Donc moi, je relaie tout, pratiquement tout, par mail, mais pas simplement. On a aussi des écrans. Là, on n'avait pas d'interprète pour notre travail sur le projet d'établissement, mais on a choisi le dictaphone, ce qui a donné aussi lieu à des parties de fou rire, parce que le dictaphone, ben, c'est pas comme des interprètes. Et puis surtout, ben, on s'écoute beaucoup. Et ça, c'est un gain énorme. C'est un des multiples enrichissements qu'on apprend du fait de travailler avec des collègues comme Ludovic. C'est de ne pas s'interrompre, de s'écouter jusqu'au bout. Voilà, de prendre le temps de travailler ensemble le mieux possible.
Merci beaucoup. On va peut-être rester sur la canopée, parce que vous avez à la fois évoqué déjà des conditions de réussite qui sont la formation, même du bilan sur les équipes, qui est une nouvelle façon de communiquer ensemble, etc. Et vous n'avez pas évoqué les écueils, mais on peut peut-être les voir avec Elisa.
Alors, ben, pour qu'un pont sourd fonctionne, il faut qu'on ait des collègues sourds. Et déjà, ça, c'est une problématique de recrutement. On a beaucoup de mal à recruter des collègues sourds qui soient à la fois, donc, effectivement, qui aient le niveau de LSF suffisant, mais qui aient aussi toutes les qualités pour devenir bibliothécaire. Donc, la curiosité, on a dit la créativité, le goût du service public, voilà. Donc c'est un travail permanent sur le long cours, parce que comme on me l'a dit, on apprend à s'écouter, mais aussi les mauvaises habitudes reviennent vite, et des fois il faut rappeler à l'ordre l'équipe pour dire attention, ne passe pas devant, attention, prends le temps d'écouter. Voilà. Donc c'est vraiment un travail quotidien. Je pense que Ludo sera d'accord. Voilà. On a un problème au niveau des... Là, je parle surtout des écueils. Les difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau de la formation. Les marchés de la ville changent régulièrement, et avec eux, tous nos marchés de formation. Et ils ne sont même pas inscrits dedans. Et donc, c'est la bataille constamment avec le bureau de la formation pour avoir donc des formations adéquates, aussi bien pour les débutants que pour les confirmés, voilà, à tous les niveaux. Et là, à titre d'exemple, ça fait donc des collègues qui sont là depuis 6 mois et qui n'ont eu aucun cours de langue des signes parce qu'il n'y a pas de formation disponible. Et donc ça, c'est un réel problème qui génère beaucoup de frustration pour l'équipe qui ne peut pas communiquer difficilement, à qui on ne donne pas les moyens de rentrer dans la langue, et même de la colère maintenant en se disant « mais on nous abandonne ». Voilà. Non, mais si. Et là, que faire? Voilà. Donc ça, c'est un de nos écueils. On a aussi un petit écueil au niveau de l'interprétariat. Donc il faut préparer nos réunions bien en amont, parce qu'il faut 7 à 10 jours pour faire une réservation. Elles ne sont pas toujours validées, parce que des fois il n'y a plus d'interprète disponible. Donc ça laisse peu de place à la spontanéité, à la réactivité. Et voilà, donc ça, on aimerait que ce soit plus souple, et qu'il y ait voilà, le marché plus ouvert. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je vais quand même vous rassurer. La vie d'équipe est très agréable malgré les différents niveaux de langue. On a de la chance, à la canopée ça se passe bien. Voilà. Mais ça demande effectivement des ajustements en permanence. Et une réelle curiosité, vraiment un effort de tous les jours. Les réussites, oui, mais il y en a.
Oui.
Donc tout ça, qu'est-ce que ça génère? La montée en compétences pour les équipes, aussi bien pour les collègues sourds que les collègues entendants.
On y reviendra peut-être sur les bilans et perspectives, mais les conditions de réussite, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à part les moyens pour avoir des formations?
Si le point indispensable, c'est vraiment la présence de collègues sourds, voilà, qui représentent la diversité. Et s'ils ne sont plus là, eh bien, il n'y a plus de diversité à la bibliothèque.
Merci beaucoup.
Elle n'a pas eu le temps de traduire. Je disais que sans la présence de collègues sourds à la médiathèque, il n'y avait plus de représentation de la diversité et que c'était problématique. Voilà.
Vous avez évoqué la question du recrutement et également la question des marchés et donc du côté aussi procédure, administration, etc. Eleonora, vous aviez commencé à en parler. J'imagine que ça fait partie des écueils aussi pour Livre Exil.
Oui, complètement. Là, pour commencer par les freins et les écueils qu'on a rencontrés et qui nous ont été aussi exprimés par les collègues quand on se confrontait à la réalité de terrain. Le premier écueil qu'on n'avait pas imaginé, ce sont les conditions d'entrée dans la fonction publique. Rappel, mais vous l'avez sans doute en tête, un fonctionnaire titulaire ne peut être qu'européen. Donc nous, on dessert un public qui est ciblé sur les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ce qui permet un droit du travail. Mais ce sont des conditions qui ne pourront pas permettre la titularisation. Alors on sait évidemment qu'il y a des postes de contractuels. Hein, on est, je crois, pour la fonction publique territoriale, je connais bien mon chiffre, c'est 70% de titulaires, mais je ne saurais pas dire pour les autres fonctions publiques. En tout cas, on est quand même sur une petite partie de contrats qui peuvent être remplis, ou en tout cas où on peut recruter des personnes qui ont un statut de réfugié. En revanche, avoir un pôle ressources humaines ou un service ressources humaines qui se confronte à certains papiers, tout simplement, certaines conditions d'entrée, parfois, dans certaines, chez certains services, ça peut déstabiliser. C'est encore quelque chose qui n'est pas courant, de recruter un réfugié dans la fonction publique ou dans un établissement public. Et donc, on rencontre parfois des questionnements juridiques qui ne tiennent pas trop la route. Donc, voilà, on se retrouve à détailler un petit peu les lois et à rassurer sur les conditions d'entrée dans la fonction publique. C'est pas évident non plus, même si la profession est très très ressource et on a vraiment des bons retours de la profession en général sur le fait de pouvoir accueillir ces personnes réfugiées dans les équipes. C'est quand même difficile pour une personne d'avoir l'étiquette réfugiée ad vitam aeternam en tant que bibliothécaire. Donc se retrouver confronté sans arrêt à une étiquette de réfugié dans la période de recrutement, puis c'est quand même quelque chose qui freine un petit peu une personne qui potentiellement a déjà des problèmes de légitimité à être là. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, sur lesquels on peut sans doute jouer. On a un problème de... Je vais mettre la slide, hein, comme ça vous aurez les deux parties. On a un problème de zone géographique. Le flux de personnes potentiellement bénéficiaires du programme Livre Exil se trouve essentiellement en Île-de-France. Sauf que les emplois et puis les collègues qui auraient le temps ne se trouvent pas forcément en Île-de-France. On s'est retrouvé, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, avec plusieurs bibliothécaires et plusieurs établissements voulant accueillir des personnes réfugiées en Pays de la Loire et Bretagne. Mais tous nos potentiels bénéficiaires de cette période-là étaient en Île-de-France. Et vous imaginez évidemment que le déplacement était un peu compliqué. Donc on a quelque chose qui concerne toute l'insertion professionnelle des réfugiés, pas qu'en bibliothèque, sur les flux migratoires qui arrivent sur une installation dans certaines villes et notamment dans les métropoles, alors que, mais on le sait, on a des bénévoles dans des bibliothèques rurales en France, des établissements un petit peu partout qui pourraient avoir des postes libres. Je vous ai mis plusieurs autres choses, les ressources financières des bénéficiaires, ça a été un frein aussi. Quelqu'un qui part en formation, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire. Donc comment faire pour que cette personne vive pendant un an? Pour vous donner un exemple concret encore une fois, la personne qu'on suit là jusqu'à la fin de juin qui est en formation à l'ABF a pu avoir un contrat. On a pu fabriquer un contrat parmi les heures de formation nombreuses qu'il avait à faire pendant la semaine. Mais c'est quand même toujours un défi de pouvoir vivre et se former au métier de bibliothécaire en même temps. Donc on essaie de trouver des ressources financières publiques et privées pour pouvoir financer non seulement la formation ABF, hein, qui coûte 1 000 euros à peu près par an, mais également d'autres cours s'il en faut, mais aussi tout simplement des ressources financières pour ces personnes-là. Les derniers écueils, ou le dernier écueil, ils dépendent de vous. C'est la surreprésentation des compétences linguistiques dans la profession. On s'est rendu compte, notamment à la la suite de, de l'expérience de notre première bénéficiaire, Mariam, que plus on est inséré dans un milieu à hauteur d'enfant, voilà, ce sont des compétences qu'on met en place au fur et à mesure dans l'expérience d'un bibliothécaire, quel qu'il soit. Et on se retrouve souvent avec des bibliothécaires et des équipes qui freinent des cas de fer en disant « oui, mais cette personne-là ne parle pas français ». Et donc on se retrouve à voilà, avoir un accompagnement du groupe Livre Exil sur... alors, on n'est pas aveugle, hein, y a quand même des cours de français qu'il faut quand même, qui font quand même doubler de l'expérience professionnelle, mais ça se dégoupille, en tout cas les freins se dégoupillent assez rapidement quand on est dans le bon environnement professionnel. Je vous mets juste l'expérience de Mariam... pour concrétiser un petit peu, donc Mariam, c'est notre première bénéficiaire, qui est aujourd'hui agent de bibliothèque à Maison Alfort, depuis environ un an, maintenant un petit peu plus d'un an. Pour vous donner aussi un côté positif, mais elle a réussi la formation, mais elle dit dans une petite interview qu'elle a faite quand elle était dans les bibliothèques de Paris pendant son stage, la formation est très difficile, les connaissances bibliothéconomiques sont quand même très nombreuses, elle a eu des moments un petit peu compliqués suis-je là pour quelque chose et est-ce que je vais continuer ma formation. Mais bon, vous avez la citation à côté qui lui fait dire, qui fait dire tout, en fait. Elle était très motivée pour devenir bibliothécaire, puisque justement, pour elle, c'est un peu la caverne d'Ali Baba où on trouve tout. On trouve toute la connaissance, ou en tout cas, on y a accès, ou en tout cas, on nous oriente vers la connaissance. Et c'était vraiment son objectif qu'on avait un peu identifié avec elle. Et voilà, là, j'avance un petit peu sur les... sur les choses positives, mais ça s'est quand même dédoublé d'une difficulté quand même pour Mariam, qui s'est bien conclue puisqu'elle a eu sa certification, mais voilà, qui révèle quand même les difficultés d'apprentissage et de savoir et de savoir-être qu'il faut apprendre quand on est en formation de bibliothécaire.
Barbara, nous avons aussi parlé de la question du recrutement pour la bibliothèque de Brême lors de la préparation de la table ronde. Refléter la population locale, c'est pas évident si les recrutements, les candidatures ne sont pas déjà représentatives de cette population. Comment vous avez fait pour pallier à ça?
Ah oui, vous avez vu qu'il y a des gens qui maintenant travaillent, qui étaient des réfugiés. Il faut un moment, il faut... Non, c'est... Hein? Oui, voilà, alors... On a des difficultés totalement de trouver des gens qui veulent être bibliothécaires en Allemagne. Je ne sais pas si c'est aussi en France, aussi les assistants. Et parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui trouvent que la profession bibliothécaire est un peu gris, pas intéressant, normalement déjà. Et naturellement, trouver des gens qui viennent d'une autre culture où la bibliothèque est une locale ou une entreprise qui n'est pas pour le peuple. Surtout dans certains pays islamiques, dans la Turquie, il y a des choses, il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans la bibliothèque, qui ne veulent pas commencer un apprentissage. Et nos jeunes gens qui ont passé l'apprentissage, qui étaient des réfugiés, ils maintenant font des publications. Ça veut dire on fait avec eux des foires de profession. Je suis sûre qu'en France, il y a aussi ces événements que beaucoup des entreprises et aussi le secteur public va dans les...
Forum des métiers.
Forum des métiers. Et maintenant, dans ces forums des métiers, il y a seulement ces jeunes gens qui étaient réfugiés, qui, avec leur langue allemande pas assez parfaite, Essayer de motiver les autres gens qui sont dans la même situation, dans la même condition que peut-être ils étaient déjà, de les motiver à aller aux bibliothèques pour l'apprentissage. Et c'est vraiment c'est un succès parce que maintenant on a aussi des semaines pour les gens qui ne sont pas d'origine allemande. Une semaine, ils peuvent visiter la bibliothèque après la scène. Et deux de ces gens disaient « Oui, c'est intéressant et je vais appliquer pour cet apprentissage. » Par mon avis, il est très important que la bibliothèque, comme elle est aujourd'hui, est montré aux ces gens parce qu'ils ont une image de la bibliothèque de leur pays d'où ils viennent qui n'est pas la bibliothèque d'aujourd'hui dans la France et dans l'Allemagne et qui ne sert pas pour le peuple, qui n'est pas intéressant. Et quand il a l'occasion de voir comment la bibliothèque est pour le peuple dans la France, en Allemagne, beaucoup de ces gens sont étonnés. Et il faut les Russes ont un proverbe voir une fois c'est mieux que écoute 100 fois. Et c'est très important qu'il faut inventer des outils pour avoir ces gens dans la bibliothèque pour la première fois et qu'ils voient comment la bibliothèque d'aujourd'hui travaille.
Et vous arrivez à la fin du programme 360, c'était jusqu'en 2022, je crois.
Oui.
Quel est le bilan du programme ?
Notre bilan est très positif parce qu'on a beaucoup de relations maintenant avec des organisations, des sociétés bilinguales, binationales. Et aussi, maintenant, l'organisateur voulait qu'on ait aussi pour cent de employés à la bibliothèque qui ne sont pas d'origine allemande comme dans la société. C'était en Brême, à Brême c'est 30%. Et malheureusement, nous n'avons pas 30% parce que 30% de 150, c'est à peu près 50 gens de notre origine. Ce n'est pas possible parce que le marché nous ne le donne pas la possibilité d'avoir comme ça. C'est notre tâche de faire que le marché est là, qu'il y a assez de gens dans le marché pour les employer dans les bibliothèques. Maintenant, nos bibliothèques sont blancs, sont allemands. Oui, c'est ça. Mais quand même, je crois que notre équipe a très bien compris qu'il faut penser à la diversité. Et maintenant, nous avons décidé que la diversité n'est pas un métier extra, que la diversité n'est pas une chose qui est hors de la catalogisation, est hors de l'accueil, mais que la diversité est une tâche transversale. Et ça, pour moi, c'est le plus grand succès de ce projet, que beaucoup de gens de mon équipe ont compris que la diversité est une tâche transversale.
Quels sont les effets aussi de l'inclusion de Ludovic dans les équipes de la Canopée, pour l'équipe et pour les publics?
Eh bien, je crois que le résultat est très positif. Je vais me rapprocher du
micro. Je ne sais pas s'il fonctionne, oui. Avec moi dans les équipes, j'ai été comme la clé finalement pour l'accueil du public sourd et aussi l'attirer. On a pu former les équipes d'entendants, proposer différents services, des actions culturelles, accueillir des intervenants. Au niveau de la communication aussi, ça a changé beaucoup de choses. Donc je pense que ça fonctionne. Bien sûr, il y a encore des petits détails à améliorer. Même si à Châtelet-les-Halles, c'est un point de rendez-vous pour les personnes sourdes, c'est quand même pas un public de proximité, donc il faudrait qu'on travaille plus grâce à l'outil vidéo, à des communications vidéo pour pouvoir accueillir aussi des publics qui viennent peut-être de plus loin. Mais c'est quand même positif parce qu'il y a un public sourd qui vient, il y a aussi des étrangers qui sont là et ça c'est important. Alors bon, voilà, il y a une équipe majoritairement d'entendants, bien sûr. Il y en a plusieurs qui ont eu des cours de langue des signes, qui ont eu des formations et qui se reposent un peu sur leurs acquis. Donc il faudrait aussi pouvoir proposer des rendez-vous réguliers une fois par semaine pour pouvoir communiquer en LSF et pour entretenir ce niveau de langue des signes, quoi. Voilà. Quoi d'autre ? Bon, pour les nouveaux arrivants... En fait, il y a du turnover, forcément. C'est compliqué. Il y a 6 mois, là, je crois, il y a eu 6 nouveaux collègues qui sont arrivés. Donc, il a fallu les accompagner, les sensibiliser à ce que c'était que la surdité, le monde des sourds, les signes, leur donner un signe, enfin, voilà. Bon, aussi, ce qui est important, je pense, c'est de proposer des actions bilingues, culturelles. Donc en français et en langue des signes. Parce que si on organise un événement et qu'on invite un intervenant sourd, il faut qu'il y ait une équité aussi dans l'inclusivité, donc il faut que ce soit dans l'inclusion. Donc voilà, il faut que ce soit aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, je demande à mes collègues.
Quand Ludovic parlait des étrangers, il parle bien sûr des sourds étrangers. Et c'est pourquoi il y a quelques années, au moment du Covid, comme on avait du temps un peu pour réfléchir à des sujets métiers, on a testé les premiers ateliers de conversation en langue des signes française qui permet à la fois de toucher des sourds étrangers et également de toucher des entendants qui ont besoin de pratiquer aussi la langue des signes française, puisque nous, la chance qu'on a, c'est effectivement d'avoir on avait 3 collègues sourds dans l'équipe, et de pouvoir travailler au quotidien, ça nous oblige à penser autrement au quotidien, parce que c'est aussi une façon de penser un peu différente.
Merci. Et pour finir, Eleonora, donc le programme Livre Exil a déjà permis l'embauche de Marianne.
Oui. On a effectivement un autre bénéficiaire là en cours de formation. Ce que ça nous a permis d'identifier, c'est que avec les différents stages que d'autres bénéficiaires ont pu avoir fait dans d'autres bibliothèques et qui n'ont pas suivi le programme en entier, mais qui nous permettent quand même d'avoir des retours de terrain aussi des équipes. On est sur les mêmes choses que les collègues viennent de dire, hein, effectivement, des apprentissages qui bénéficient un petit peu à toute l'équipe, des formes d'adaptation. On a l'impression qu'on s'adapte et en fait, on y gagne. Au point de vue national et sur le programme, je vous laisserai juger du fait que la France est... volontariste en termes d'insertion professionnelle des personnes étrangères ou pas, mais en tout cas dans la fonction publique et en bibliothèque, on est quand même sur un tout petit nombre de personnes qu'on vise et qu'on peut faire accéder à cette profession-là. Mais quand on rencontre les associations, les ONG, on a travaillé avec BSF par exemple, des associations locales d'insertion professionnelle, notamment en Île-de-France, qui accompagnent avec des assistants sociaux, etc., ces parcours d'insertion professionnelle, on a un très bon retour quand même du fait qu'on est un des métiers qui a le plus vite pensé l'inclusion des personnes réfugiées dans la fonction publique. On est une profession inclusive, en tout cas en France. Et donc on a un bon retour aussi de ces partenaires qui vivent les choses au quotidien et qui vivent les choses sur le terrain, comment on fabrique des compétences, un socle de compétences, et comment on intègre ensuite dans la pratique des choses qui viennent des personnes, hein, des compétences qu'elles avaient auparavant, qu'on n'a pas du tout instaurées nous-mêmes, hein, qu'on n'a pas. Mariam, par exemple, était journaliste, identifier des sources d'informations solides, trier l'information et avoir des références culturelles, même si elle n'était pas très francophone au départ, mais elle a appris à les avoir, c'était quand même des compétences avec lesquelles elle est arrivée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a comme levier pour continuer le programme. La profession comme soutien des initiatives, on rappelle que c'est un programme bénévole. Donc on est quand même sur quelque chose de fragile, comme toute association, qu'on a aussi besoin d'appui dans la profession, mais d'appui structurel, que ce soit d'autres ONG. Et dans cette discussion-là de plusieurs années, on a quand même en 2022 obtenu un financement du ministère pour nous appuyer sur ce programme-là. Et on continue aussi au bénéfice de certaines initiatives qui ont été mises en place juste après les premiers combats en Ukraine. On a réussi aussi à mobiliser sur ces questions-là. Je rappelle quand même que quand on arrive dans le territoire français, le fait de comprendre déjà où est-ce qu'on est arrivé est très long. Et que, effectivement, les initiatives qui ont été mises en place pour accueillir les personnes ukrainiennes, et notamment les bibliothécaires ukrainiens, ne prendront véritablement effet que maintenant, un an après ou dans quelques mois, parce que c'est long, l'insertion d'une personne qui doit comprendre le pays où il arrive et ses dispositifs un peu administratifs ou professionnels. Donc on est sur un travail long, donc on espère pouvoir continuer, et puis on recherche aussi des financements et évidemment des bonnes volontés, s'il y en a dans la salle, pour nous appuyer ou nous informer ou redistribuer un petit peu cette information-là auprès des équipes et puis faire connaître le programme lorsque vous rencontrez une situation qui peut être appuyé d'une certaine manière par Livre Exil, que ce soit la formation ou juste être informé sur les bibliothèques et le métier pour des personnes qui seraient étrangères. Donc on a quand même des leviers pour continuer ce programme, même si c'est très limité. Voilà, on a eu une personne par année. Je parle pas du Covid parce que on a tous un petit peu stoppé certaines choses et puis ça a été difficile de s'y retrouver aussi chez les partenaires locaux, mais voilà, on n'est pas sur un gros volume de bénéficiaires à 4 bibliothécaires dans Livre Exil, on n'y arriverait pas non plus, mais effectivement on continue notre petit chemin pour essayer de faire ça, mais c'est vrai que les chiffres de Brême m'attirent énormément. On le savait, hein, mais bon, voilà, là, j'ai eu les chiffres réactualisés. Bon, on n'est pas dans un système qui favorise d'emblée cette chose-là au niveau fonction publique ni en France. En tout cas, nous, on arrive à faire notre petit bonhomme de chemin là-dedans et on est preneurs de votre aide.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, peut-être y a-t-il des questions ?
Merci pour vos interventions, mais par rapport à la fonction publique, vous n'avez pas évoqué le fait qu'il y a un CAPES de bibliothécaire.
Non, c'est documentaliste.
Documentaliste.
Oui, alors c'est sûr qu'il y a des concours et il y a des accès de ce type-là, effectivement, qui qui freine dans un temps un peu long le parcours des réfugiés. Par contre, la première chose dans le cas des personnes qu'on rencontre à Livre-Exil qui freine, c'est vraiment le premier contrat. Nos contractuels, voilà, c'est parfois, on a des petits freins à cet endroit-là, oui. Mais c'est vrai que dans les 5 ans, Mariam, notre première bénéficiaire, elle demande la naturalisation française pour pouvoir accéder au concours de la fonction publique, sinon elle n'y accédera pas.
Mais ce qui veut dire qu'on veut faire un parcours donc documentaliste, ce qui est assez proche, on peut être d'accord, dans la fonction publique et dans les structures universitaires et du secondaire. C'est quand même important.
Oui.
Et dans les liens entre le rapport entre la circulation, la formation via les lycéens et les bibliothécaires.
Oui.
Une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est parce qu'il y a la question de la diversité de l'accès contractuel ou par voie de concours, mais une fois qu'on est dans la fonction publique, c'est aussi la question de l'évolution. Et nous, c'est vraiment un de nos sujets de préoccupation, c'est-à-dire, notamment quand on parle une autre langue, comment passer ces épreuves qui sont d'abord des épreuves de compréhension et où la pratique du français écrit est absolument indispensable. Pour nos collègues sourds, c'est vrai que parfois quand ils sont d'abord signants, ils ont eu un apprentissage différent du français écrit et ça peut être un obstacle pour eux pour évoluer. Alors après, il y aura des promotions, il y aura des choses comme ça, mais les concours réservés ne prennent pas toujours en considération cette question-là. Et il y a probablement quelque chose à repenser pour pouvoir intégrer cette diversité et une évolution de carrière. Pas que des personnes rentrent et ensuite restent là, parce que ben, s'ils n'ont pas les concours, ben, c'est tant pis.
Moi, j'avais deux petites questions pour Livre-Exil. Vous dites vous êtes que 4 bibliothécaires et bénévoles, c'est-à-dire que vous êtes bibliothécaire par ailleurs et en heure sup, vous faites Livre-Exil ?
Complètement, le dimanche.
D'accord. Ok, vous avez des enfants ? Non, toujours pas ?
Alors, toujours pas, je ne sais pas, mais en tout cas...
Vous faites ça le dimanche ?
Oui.
Et d'accord, on même... c'était ma question.
Oui, 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 on est sur des heures supplémentaires. C'est pour ça que je dis que c'est fragile, c'est qu'on est sur des collègues qui, depuis 2019, passent énormément de temps à fabriquer ce programme-là et à faire du bénévolat. Par ailleurs, on a même des collègues qui sont bénévoles dans d'autres associations qui aident les réfugiés en général, ou sur des questions LGBTQ ou réfugiés aussi, par exemple. Qui pénalise doublement notamment l'insertion de ces personnes-là. On a beaucoup de temps à consacrer. J'ai été sur ma journée de pause hier pour rencontrer un potentiel de nouveau bénéficiaire de Livre-Exil. C'est un engagement et ça veut dire une fragilité. Par contre, si on peut lancer quelque chose qui devient institutionnel, tant mieux qu'on laisse un petit peu les choses. On s'est rendu compte aussi que certains collègues qui étaient tuteurs de stage pouvaient être un bon appui, puisqu'en fait, eux sont tuteurs de stage, c'est bête à dire, mais sur leurs heures de travail. Donc c'était aussi une bonne montée en charge de Livre-Exil ces dernières années, d'avoir des collègues en poste qui pouvaient dédier un petit peu de temps à l'insertion en fait, dans les équipes, quelles qu'elles soient, de stagiaires et de l'insertion dans les métiers.
Et ma deuxième question, c'était, est-ce que vous... je suppose que vous êtes bibliothécaire depuis plus que 4 ans, mais est-ce que vous avez ressenti, en travaillant sur Livre-Exil, une montée de xénophobie, une montée de racisme, plus de difficultés à trouver des partenaires, ou pas ?
Il y a eu une période difficile de ressources et financement. Et quand je dis ressources, je dis aussi ressources chez les partenaires associatifs et ONG. Il y a eu, au moment du Covid, un moment de fragilité. Voilà, les structures étaient fragiles. Et donc le Covid a fait baisser les sources de financement. Ce que nous, on a vu dans la fonction publique, c'est plutôt le contraire, une adaptation. On a été très positivement étonnée, notamment que les contacts avec les directeurs des ressources humaines ou directrices des ressources humaines ou services des ressources humaines avec lesquels on a discuté pour des stages, des conventions, des emplois, des contrats, commençaient à être vraiment sensibilisé à ces questions-là. En tout cas, on avait des vraies discussions. Que les préfectures qui valident derrière les contrats, notamment certains en fonction publique territoriale, avaient une sensibilisation accrue à ces questions d'accès à la fonction publique. Par contre, les textes légaux qui régissent tout ça n'ont pas bougé. Et donc, on voit... entre guillemets, les personnes volontaires, essayer de pousser les cadres un petit peu avec les coudes pour faire rentrer les choses. Je vous donne un exemple qui ne concerne pas notre métier, mais qui concerne un métier un petit peu voisin et cousin, qui sont les professeurs d'enseignement musical dans la fonction publique territoriale. Beaucoup ont un parcours et une formation venant notamment de la Chine. Beaucoup de DRH ou de services ressources humaines et de préfectures se sont vus confrontés à parfois ces questions de l'égalité de l'emploi, alors que les employeurs étaient demandeurs de ces compétences-là, puisqu'ils ne trouvaient pas le professeur de piano qu'ils trouvaient, mais que ce n'était pas possible d'embaucher quelqu'un qui venait de Chine. Donc ils ont trouvé des solutions. C'était plutôt des questions de ressources qu'on a eues. Pour la question de la xénophobie, je prends ma petite casquette ABF, autre que Livre Exil. C'est plutôt une question qui est relative à l'accueil des publics. Ça, c'est peut-être un autre sujet que celui que je représente aujourd'hui, mais sur la relation au public et sur ce qu'on peut mettre en place comme service. Nous, clairement, à Livre Exil, on ne l'a pas vécu. On a plutôt vécu une profession souteneuse, qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Côté positif, un petit peu des dernières années.
Pour bien récolter ce qu'on a semé.
Oui, aussi.
Pour vos présentations, moi j'ai une question pour la canopée, pour Sophie Beaubret particulièrement. Vous avez dit en passant que le fait de faire des vidéos pour diffuser les messages en langue des signes française, c'était pas écologique mais plutôt développement durable. Du coup, ma question c'était l'inclusion, est-ce que ça peut se conjuguer avec la sobriété, avec une société post-croissance? Est-ce que c'est toujours lié au développement ou est-ce que on peut la pratiquer quand même dans une société sobre? Et je sais que la Canopée est très engagée aussi sur les bibliothèques vertes, qui sont d'ailleurs liées au développement durable plus qu'à l'écologie, mais voilà, c'est le sens de ma question. Merci beaucoup.
Alors, on avait discuté avec un des responsables du Shift Project qui nous proposait à un moment donné de faire une visio et qui disait, oui, ok, la visio, c'est pas, ça consomme beaucoup de données, mais en même temps, de vous voir, ça me fait du bien. Et je pense que c'est ça la question de l'accessibilité aussi. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à l'écologie punitive. Et je pense que, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans une démarche de guide avec des éco-gestes, de réflexion. C'est-à-dire que ce qu'on va utiliser en données, parce qu'on utilise beaucoup la vidéo, alors aussi parce que ça nous amuse beaucoup de jouer sur les clichés des bibliothécaires, comme c'était dit auparavant, c'est-à-dire montrer la société telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'on imagine le bibliothécaire derrière son bureau, à lire des livres, à être très, très sérieux. Donc, c'est fini. On joue là-dessus. Et puis aussi, ça nous permet d'être accessible et être accessible non seulement à des publics sourds, mais à des publics dits éloignés, c'est-à-dire tous ceux qui se diraient bibliothèque, mais c'est pas pour moi. Donc nous, on leur dit, venez, faites ce que vous voulez, parce qu'une bibliothèque, c'est ça aujourd'hui, c'est un lieu. Donc par rapport à l'écologie, on réfléchit, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser en données d'un côté, on va essayer de le récupérer de l'autre en faisant des ateliers pour maintenir la durée de vie d'un portable, donc sensibiliser beaucoup en équipe aussi. On essaye de faire des journées sans mail, on essaye d'utiliser d'autres médias, d'autres formats. On va, de toute façon, on n'est pas pour la croissance verte, c'est certain, on est plutôt pour la sobriété, mais d'abord on est pour l'accessibilité. Donc c'est ça qui va pour nous prédominer avant la question de l'écologie. Je ne sais pas si Elisa ou qui s'occupe de la communication, ou Ludovic qui aussi fait beaucoup de vidéos, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Merci. Bah, en fait, il est vrai que la langue des signes est une langue visuelle. Donc, on a besoin déjà d'espace et de 3D. Et c'est pour ça que c'est pratique la vidéo, parce qu'on peut en enregistrer et la diffuser très facilement. On peut projeter les vidéos sur une télé. Bon, c'est vrai que ça consomme de l'électricité. Il est vrai. Bah, c'est comme ça aussi, hein.
J'espère qu'on ne vous a pas déçu. Hein.
Moi, c'était juste une remarque, parce que je pense que l'après-midi est pas loin de toucher à sa fin. Et c'est une suggestion pour les prochaines journées d'études BPI, parce que sur la diversité, je trouve qu'il a peu été question, par contre, de l'intégration dans notre quotidien, justement des personnes, non pas, alors c'est génial hein, de travailler pour, enfin d'intégrer des personnes réfugiées, vraiment, mais moi je parle de vraiment donner envie aux enfants qu'on côtoie dans, tous les jours dans nos médiathèques, qui sont pas forcément réfugiés, qui sont voilà, juste issus de différentes familles, de différentes cultures, de leur donner envie de faire notre métier. Parce que contrairement à ce que disait Agnès Salle tout à l'heure, j'ai pas revoulu prendre la parole, mais c'est pas vrai, dans la fonction publique, il y a des secteurs où il y a des personnes, beaucoup plus de personnes d'origines différentes, et dans les bibliothèques, ça n'est pas le cas. Moi, il y a quelques années, j'ai passé un concours de bibliothécaire dans la salle, on était plus de 300, et il y avait que deux personnes de couleur. Donc, vraiment, je réinsiste, je sais que c'est... Voilà, mais je pensais que ce serait abordé aujourd'hui, mais enfin, ça, c'est pas le cas. Donc je me dis que c'est la diversité dans les, voilà, dans les prochaines journées d'études, c'est aussi vraiment la diversité du quotidien, comment on la fait rentrer dans nos établissements en cherchant vraiment autour de nous, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, surtout quand on n'est pas représentant, comment on peut aider à diversifier l'entrée des collègues, parce que je pense que chacun d'entre nous, on aimerait la diversifier, mais en fait, on n'a pas de candidat, des fois, tout simplement. Même à compétences égales, on n'a pas de candidat. Or, je ne crois pas que ce soit du tout le cas pour, par exemple, les questions de genre. Je pense qu'il y a une très grande partie, il y a beaucoup de bibliothécaires homosexuels, je pense qu'il y a une représentation qui existe, ce qui est beaucoup moins le cas pour la question des origines.
Oui, mais c'est ce qu'évoquait un peu Barbara Lison, je crois, en disant qu'en fait les réfugiés qui avaient intégré les équipes de la bibliothèque étaient en fait devenus des ambassadeurs aussi pour...
Non mais j'entends, mais moi je pensais pas aux réfugiés, en fait je pensais vraiment vous savez, voilà il y a aussi des gamins français depuis deux générations, ils sont pas du tout réfugiés, mais ils s'identifient pas du tout à notre métier, alors que par exemple dans les services RH de nos mairies, dans les services animation c'est beaucoup plus varié. Pourquoi les bibliothèques continuent à être aussi blanches, quoi, c'est...
Alors, on le fait, on accueille...
Ça y est, le débat entre dans la salle, enfin.
on le fait, on accueille beaucoup de stagiaires. Nous, à la Canopée, on est sur une plateforme de transport qui fait qu'on a même beaucoup de personnes du Grand Paris et au-delà qui viennent et avec qui on a des partenariats, donc, et des lycées professionnels avec qui on travaille. C'est par ce biais-là, en fait... On ne fait pas de différence, en fait, on accueille les gens qui nous demandent et on a des jeunes qui sont intéressés ou pas par les bibliothèques, à qui on va les faire découvrir le métier. J'ai l'impression qu'on le fait déjà par nos actions, en fait. Et parce qu'on est ouvert tout le temps aussi, donc les gens qui partent pas en vacances, et ben on les voit. Et donc on leur propose des actions aussi. Est-ce qu'on va leur donner envie de devenir bibliothécaire? On espère, mais on... Voilà. Après, on les recrutera peut-être comme étudiants de week-end aussi. Ça, c'est aussi un biais. Et il y a peut-être...
Ouais. Juste pour compléter la question des chiffres nationaux de la diversité dans la fonction publique, elle est compliquée déjà globalement, en dehors des bibliothécaires. C'est-à-dire que essayer de comprendre déjà quel est l'état des lieux On peut faire de la diversité des fonctionnaires en général. Elle n'est même pas pensée. Donc moi, si je cherche, j'ai cherché, recherché aujourd'hui, pour vous donner des chiffres ou des choses un peu statistiques qui nous permettent d'avoir un état des lieux, on n'en a pas. C'est pas pensé. Donc déjà, globalement, ça, c'est une problématique. Après, je vous renvoie quand même aux chiffres clés de la fonction publique territoriale, enfin, des bibliothécaires territoriaux, qui est déjà pour une partie de nos postes et notre de ce métier-là donne quand même un aspect, en tout cas une photographie assez intéressante. On a de toute façon un double frein à l'accès à ce métier. C'est la fonction publique effectivement qui a une perte de toute façon de candidats globalement, et on cumule nous avec le sentiment de non-légitimité à devenir bibliothécaire, comme beaucoup de métiers intellectuels et qui nécessitent quelques diplômes et qui ont une espèce d'aura il faut être un petit peu un rat de bibliothèque, il faut être diplômé, etc. Après, je vous renvoie quand même à certaines expériences. J'entendais dans la salle des gens qui disaient que ce n'est pas le cas partout. Moi, je me suis inspirée dans mon propre établissement de la médiathèque de Choisy-le-Roi d'un certain nombre d'autres médiathèques qui ont pu, mais ça, je pense qu'on le fait depuis 30 ou 40 ans en bibliothèque territoriale, recruter des enfants du quartier quand on installe une nouvelle médiathèque. Moi, je viens d'en recruter deux. C'est quelque chose qui est entendu au niveau contractuel. Il n'y a pas vraiment de levier, enfin, il n'y a pas vraiment de frein, justement, très conséquent à ce qu'on recrute sur des petits contrats des personnes issues du territoire. C'est même parfois des enjeux de discussion très positive avec les élus. Donc, pourquoi pas ? Est-ce que ça ne dépendrait pas un petit peu de nous ? Et de notre manière de recruter, peut-être. En tout cas, il y a quand même au niveau nationalement des petites choses qui concernent toute la fonction publique et pas juste le métier de bibliothécaire. En tout cas, de ce que j'en vois, moi, à l'ABF, là, je vous élargis un petit peu une réflexion qui sous-tend un peu le fil rouge de Livre Exil, mais qui est quand même globale à une réflexion qu'on porte quand même à l'ABF de diversité un petit peu dans les équipes et pas simplement vers les publics. Les deux sont concomitants, évidemment.
Vous êtes nombreux à vouloir réagir, donc je propose, pour gérer au mieux le temps, qu'on prenne plusieurs questions, réactions, très brèves, et ensuite les collègues sur l'estrade pourront réagir.
Bonjour, donc je travaille à la BULAC, Bibliothèque universitaire des langues et civilisations orientales, dans cette bibliothèque. Il y a des collègues qui sont vietnamiennes, japonaises, arméniennes, russes, ukrainiennes, lituaniennes, islandaises, kurdes, turques, juives. Et celle qui est en train de vous parler, elle est handicapée. Et c'est la seule bibliothèque de toute ma carrière, je la termine cette année, qui, quand j'ai dit que j'étais handicapée et que je travaillais à 80%, m'a répondu « c'est pas un problème ».
Je crois qu'Antoine voulait intervenir.
Oui, s'il vous plaît, parce que moi, je voulais répondre au collègue qui a passé le concours de bibliothécaire. Et alors, on avait dit que c'est pas vrai que... Les bibliothèques sont tous, surtout les gens qui travaillent, qui sont tous d'origine blanche, non. En banlieue, on a des collègues qui sont de toute origine, sauf qu'on a tous la nationalité française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diversité aussi pour les bibliothécaires qui travaillent. C'est la condition du concours, d'accord, mais ça reste toujours qu'on est d'origine différente. Moi, je suis d'origine syrienne. J'ai passé la formation ABF quand j'ai commencé à travailler. J'étais contractuelle et quand j'ai eu la possibilité de passer le concours, je l'ai passé. Mais tout le monde, chaque fois, dès que j'ouvre la bouche, les gens, le public, vous êtes de quelle origine ? Alors, il ne faudrait pas généraliser que... La bibliothèque n'est pas blanche du tout. même le public maintenant, vous voyez. Alors nous, en banlieue, on a plusieurs collègues, que ce soit d'origine africaine, arabe, aussi handicapée. Vous voyez, c'est, tout le monde est mélangé. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
Oui, en deux phrases, pour faire écho à la question du recrutement, comme tout le monde, non, pas tout le monde, mais comme beaucoup de gens en France et dans notre profession, j'ai des traumatismes d'oraux de concours. Il y a quelques années, j'ai eu la pire note de ma vie à un oral de concours en répondant très mal à une question de calendrier liturgique catholique. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de virer les épreuves de culture générale de nos concours, puisque bizarrement la culture générale, elle est rarement complètement générale. Et ma question, c'est par quoi il faut remplacer, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos épreuves de concours de la fonction publique pour permettre cette inclusion ?
Une première réponse, mais qui fait écho à l'intervention précédente, le multilinguisme. Parce qu'on ne peut pas mettre d'indicateurs de diversité selon la couleur de peau ou l'origine, ou on n'a pas demandé le parcours de migration de tous les fonctionnaires ou les contractuels. Par contre, peut-être que la collègue qui vient d'intervenir est bilingue ou multilingue, et peut-être que c'est une compétence dont on a besoin, c'est un indicateur qui nous permettrait de mesurer la diversité. J'ai pas d'autre réponse que celle-ci, parce que c'est sur celle-là que je travaille depuis 4 ans. Mais sans doute qu'il y en a d'autres, des compétences. Je disais la survalorisation de certaines compétences bibliothéconomiques un peu traditionnelles qu'il ne faut pas mettre complètement de côté, c'est pas mon discours. Par contre, commencer à bouger un petit peu les pourcentages de ces compétences-là dans les concours ou dans les accès, de toute façon, à notre métier, ça pourrait être une bonne voie de progression, oui.
Il faut réinterroger les objectifs de ces concours. Qu'est-ce qu'on veut derrière ? Est-ce qu'on veut des personnes qui vont être extrêmement érudites ? C'est bien. Ou est-ce qu'on veut des personnes qui vont être des managers, qui vont être des responsables d'équipement, qui vont devoir avoir des éléments de politique et justement pouvoir correspondre à un territoire ? Donc, à un moment donné, suivant ces objectifs, on reverra peut-être la nature des épreuves, qui pour l'instant sont très académiques et donc ne permettent peut-être que de retenir qu'une partie des candidatures.
Moi, c'était par diversité. J'aurais bien aimé entendre parler des seniors.
Sinon, je voulais juste rebondir par rapport à ce que ma collègue a dit et au concours.
Dans les jurys, par exemple, les jurys ne connaissent rien à la culture sourde, à la langue des signes. Donc, comment nous, avec les collègues, on pourrait aussi travailler sur l'ouverture, sur la communication, sur l'adaptation sur l'adaptation, oui. à des albums. Adapter des albums du français vers la langue des signes. Voilà. Comment accueillir des groupes d'enfants sourds avec un niveau de français différent. Voilà, nous, on s'adapte. Comment sélectionner aussi des professionnels qui pourraient s'adapter. Et en fait, les jurys, voilà, comme vous disiez, ils sont très académiques. Ils n'ont pas conscience de ces critères-là, de ces problématiques-là. Et en effet, les critères dans les concours doivent évoluer à ce niveau-là aussi, quoi.
On doit s'arrêter, je suis désolée, mais on voit bien que le sujet... parce que nous avons un dernier intervenant qui est notre grand témoin.
Oui, Jean-Pierre Lévy, qui est directeur de recherche au CNRS, géographe, qui n'est pas bibliothécaire, nous proposer un regard sur cette journée et sur nos métiers et la question de la diversité. Merci.